La marche du monde.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je déclare ouvert le colloque Regard croisé entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. Je vous remercie.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Saint-Louis du Sénégal, la Nouvelle-Orléans, deux villes en miroir, c'est le titre évocateur de ce colloque inédit auquel RFI s'associe, un partenariat exclusif pour un événement unique puisque c'est la première fois que Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans sont étudiés dans une perspective d'histoire comparée du XVIIe siècle au XXIe siècle. Et ça se passe ici à Saint-Louis cette année et l'année prochaine à la Nouvelle-Orléans, puisqu'une trentaine d'historiens, d'anthropologues américains, français et sénégalais sont réunis pour comparer l'histoire de ces deux cités portuaires à l'initiative de nos trois invités. Émilie Clark de Tulane University, bonjour.
Bonjour.
Cécile Vidal de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, bonjour.
Bonjour.
Et Ibrahima Tioub de l'université Charenta Diop de Dakar, en association bien sûr avec l'université Gaston Berger ici à Saint-Louis, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est justement à l'université Gaston Berger, ici à Saint-Louis, que se déroule cette réflexion sur l'histoire partagée de Saint-Louis et de la Nouvelle-Orléans. Et ça en soi, c'est déjà un événement, Ibrahima Tioub. Qu'est-ce que ça signifie pour le monde de la recherche en Afrique de développer ce colloque ici à Saint-Louis?
Tout d'abord, il s'agit de Saint-Louis et de la Nouvelle-Orléans. On ne pouvait pas choisir meilleur lieu que la ville de Saint-Louis, qu'on essaie de transformer en miroir dans lequel vient se regarder la Nouvelle-Orléans. Et vice-versa, l'année prochaine, ce sera la Nouvelle-Orléans qui sera le miroir dans lequel Saint-Louis viendra se regarder.
C'est un colloque de dimension internationale et c'est quand même pas tous les jours qu'un tel événement se produit. Ici au Sénégal, est-ce que vous avez une forme de fierté? Après tout, pourquoi pas? Ça se passe ici, ça se passe pas à Paris?
Absolument. Il est très bien que le savoir se construise et se diffuse dans la circulation, comme l'est le monde atlantique. Tenir ce colloque qui permet d'amener des chercheurs africains à confronter leur point de vue avec des chercheurs européens et des chercheurs américains, c'est retrouver le triangle qui a été triangle de la mort, qu'on essaie de transformer en triangle de la vie aujourd'hui par la recherche, par la création artistique, par l'expression culturelle. C'est retrouver le triangle fondateur, mais cette fois-ci sous sa forme éminemment humaine.
Ce triangle de la mort, c'est bien sûr ce commerce triangulaire, cette traite négrière sur laquelle bien sûr nous allons venir. Alors je me tourne tout de suite vers notre invitée américaine, Émilie Clark. Vous venez, Émilie, de la Nouvelle-Orléans. Vous découvrez Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous frappe dans l'atmosphère de cette cité créole? Est-ce que vous retrouvez quelque chose de la Nouvelle-Orléans?
Yes.
Oui.
Yes and no.
Enfin, oui et non.
The first thing that strikes me is the connection.
La première chose qui me frappe, c'est la connexion entre la ville et le fleuve qui pénètre jusqu'à l'intérieur des terres. Les gens qui vivent sur les rives du fleuve Sénégal, certains d'entre eux se sont retrouvés à travailler en Louisiane comme esclaves.
And the geography of
et la géographie d'un port et la proximité d'un fleuve leur ont été familières, de la même façon que cette vue ici à Saint-Louis du Sénégal m'est familière. Il y a un pont qui domine le paysage, un pont magnifique qui enjambe le fleuve. Et il y a un pont sur le fleuve Mississippi à la Nouvelle-Orléans. La ville bat au rythme du fleuve, au fil de l'eau. Le fleuve dicte les activités de chacun, notamment des pêcheurs, tout comme à la Nouvelle-Orléans. Et j'irais jusqu'à dire que tout fleuve engendre une sociabilité particulière, d'une certaine façon imposée et accentuée par les abords du fleuve, le long duquel les gens se regroupent et se promènent le soir. Et donc, lorsque je suis arrivée ici, je me suis sentie chez moi. Familiar.
Mm-hmm.
Saint-Louis de Senegal also feels familiar for its colonial architecture, which is not precisely like New Orleans.
La ville de Saint-Louis du Sénégal me semble familière aussi pour son architecture coloniale. Ce n'est pas exactement comparable à la Nouvelle-Orléans, mais comme la Nouvelle-Orléans, Saint-Louis du Sénégal est une grande ville avec un petit centre colonial. Et c'est ce petit centre qui occupe finalement le plus de place dans l'imaginaire de ceux qui viennent d'ailleurs. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, car lorsqu'une ville moderne a un vieux quartier colonial, c'est souvent ce qui attire les gens, mais ça occulte sa réalité moderne. Donc nous devons être vigilants afin de résister à la beauté de cette ville.
Absolument, nous reviendrons sur la façon d'ailleurs dont ces deux villes elles-mêmes se mettent en scène, jouent sur leur dimension unique et romanesque. Je crois qu'un des objets aussi d'un colloque, c'est de déconstruire un certain nombre d'images et de clichés. Cécile Vidal, on voit émerger tout de suite un certain nombre de grands thèmes au fond, hein, qui guident votre réflexion. Je rappelle que vous êtes une trentaine de chercheurs ici à Saint-Louis. Vous allez vous retrouver l'année prochaine à la Nouvelle-Orléans. Parce qu'au fond, il y a effectivement un passé commun. On peut peut-être rappeler comme ça un certain nombre de données en ce qui concerne la présence française, en ce qui concerne effectivement la traite négrière. Quels sont un peu ces thèmes qui encadrent votre travail de réflexion ?
Aussi bien Saint-Louis que la Nouvelle-Orléans sont deux villes qui sont nées de la colonisation et elles ont été mises en place dans un projet colonialiste et impérialiste. Et ce sur quoi porte la réflexion, c'est la construction précisément de ces villes comme territoires et sociétés qui jouent un rôle de carrefour entre des mondes africains, européens et américains, dans ce contexte colonial, impérial et esclavagiste. Et c'est ce rôle de carrefour, d'intersection qui nous intéresse.
C'est une histoire partagée non seulement entre l'Afrique et la France, voire avec les Britanniques, mais aussi, au fond, entre le Sénégal et les États-Unis.
Oui, tout à fait, parce que lorsque la Nouvelle-Orléans est fondée, la ville est fondée par une compagnie qui détient en fait le monopole de la traite en Afrique de l'Ouest, et une grande partie des esclaves qui sont déportés à la Nouvelle-Orléans au XVIIIe siècle proviennent du Sénégal, de Gorée et de Saint-Louis. Et c'est eux qui font le lien à travers le passage du milieu, dans leur corps même et dans leur chair sur les bateaux négriers, entre ces deux villes.
Alors j'aimerais que l'on se focalise sur la naissance de ces deux villes, alors 1659 pour Saint-Louis, 1718 pour la Nouvelle-Orléans. Saint-Louis tout d'abord, si vous voulez bien, où nous sommes, au bord du fleuve Sénégal, devant nous le pont Féderbe, donc Féderbe étant le colonisateur évidemment de Saint-Louis. Et on voit bien ici que dans la mémoire collective, Féderbe est complètement intégré à la mémoire des Saint-Louisiens. Donc un monde fascinant, un monde métissé aussi d'avant la colonisation. Ça c'est peut-être quelque chose que l'on peut évoquer, Ibrahima Tioub. Comment faut-il imaginer ce monde où finalement les Français et les Africains entrent en contact, mais au départ, il y a finalement assez peu de Français qui sont là, ce sont des hommes, et on n'est pas encore dans ce projet vraiment qu'on appelle la colonisation. Comment on peut penser ce moment-là d'histoire, cette rencontre ?
En fait, la création de la ville en elle-même est une colonisation, au sens premier du terme de colonisation. Au milieu du 19e siècle, c'est d'un projet de conquête territoriale, d'imposition d'une administration au nom de la mission civilisatrice et d'exploitation économique, mais également de négation des cultures autochtones. Ce projet-là est daté. Il est de la seconde moitié du 19e siècle et il est principalement porté par Louis Levon César Féderbe, ce polytechnicien qui vient au Sénégal et va y rester très longuement. Et souvent, la colonisation est simplement assimilée à ce moment-là. Alors que, comme vous le dites, la présence française, la colonisation du territoire de Saint-Louis, en particulier de l'île, au milieu du XVIIe siècle, on est dans la période du capitalisme mercantile.
Donc là, vous parlez de ce temps d'avant cette colonisation que vous venez de définir, quelques 150 ans plus tôt.
Oui, parce que ces premiers Européens qui s'installent, le monde marchand qui s'installe, ils viennent d'abord en partenaire qui négocie leur installation et il y a une souveraineté africaine extrêmement forte avec qui il faut négocier. Et le fait que ces souverainetés africaines ne soient pas intéressées par les îles, une île comme Saint-Louis va être une aubaine pour les compagnies de commerce françaises qui vont s'y installer. Cette présence française va attirer des populations de tout l'arrière-pays dans la ville. Et le fait que la compagnie interdise à ses employés de venir avec leurs épouses et des femmes européennes va mettre nécessairement ses employés dans l'héritage du modèle déjà mis en place par le monde lusophone qui a créé toute une communauté métisse de luso-africains, ce qui va s'appeler le mariage à la mode du pays, où se mettent en ménage des hommes européens et des femmes africaines et qui vont donner naissance à ce métissage. Et le métissage à Saint-Louis, que les populations vivent sans pratiquement plus s'en rendre compte, contraste avec la volonté de pureté, d'unicité qu'on retrouve comme idéologie et qui informe nos regards actuels et qui contredit cette histoire qu'on a tendance à oublier, que la France, il lui est arrivé de construire des mosquées, d'avoir des citoyens qui peuvent avoir 4 épouses, mais tout cela n'a pu se réaliser que parce que c'était des sociétés ouvertes à la négociation et non pas des sociétés autoritaires et d'imposition de normes.
Cécile Vidal, la Nouvelle-Orléans à son tour apparaît en tant que ville. On est en 1718, hein, à peine 50 ans après la naissance de Saint-Louis. On est à l'embouchure d'un autre fleuve, le Mississippi. Cette fois, dans quelles circonstances cela se passe-t-il ?
Ce qui est frappant dans le cas de la Nouvelle-Orléans, c'est que c'est l'une des villes coloniales les plus tardivement fondées. C'est ce qui fait sa particularité et qui explique en grande partie le type de société qui va se développer et qui se développe de manière très différente de Saint-Louis, non seulement entre populations amérindiennes, africaines et européennes très différentes, mais en raison précisément de ce moment particulier du XVIIIe siècle où les empires qui se développent depuis le XVIe et en particulier le XVIIe siècle avec l'arrivée des Français, des Anglais, des Hollandais, donc de l'Europe du Nord dans cette expansion impériale, ont eu pour effet de connecter de plus en plus un monde atlantique entre Europe, Afrique et Amérique, avec un pouvoir colonial qui se marque en Amérique de manière beaucoup plus forte qu'en Afrique. Et c'est justement là où il y a la symétrie.
Vous voulez dire, Cécile Vidal, que cette différence entre la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis s'exprime surtout dans la relation entre Européens et Autochtones. Concrètement, comment s'exprime cette asymétrie, cette différence ?
Durant la période moderne, les États africains conservent leur souveraineté, leur pouvoir. Les Européens rentrent par une toute petite porte, sont dans des comptoirs comme Saint-Louis, comme des invités qui doivent négocier leur présence. Alors qu'aux Amériques, ils arrivent davantage à s'imposer, ils essayent de créer des sociétés que l'on peut dire en situation coloniale. Et la Nouvelle-Orléans, avec son plan hippodamien, qui reflète un peu celui de Saint-Louis, incarne ce projet de domination coloniale, même s'il peut être contesté par les dynamiques urbaines inhérentes aux villes coloniales.
Émilie Clark, votre point de vue justement sur cette naissance de votre ville, la ville de la Nouvelle-Orléans. Ibrahim Atioub nous a décrit un monde ici à Saint-Louis d'avant la colonisation, un monde tout à fait insoupçonné, incroyable, où on voit bien que les rapports entre les gens sont tout à fait différents de ceux ensuite qui vont être des rapports beaucoup plus caricaturaux, de dominant à dominé. Comment vous pourriez justement définir les rapports entre les Africains qui sont déportés donc vers les États-Unis avec la présence européenne dans votre ville, je rappelle, qui est née en 1718?
There are both correspondences and divergences. As I listened to Ibrahim,
il y a à la fois des correspondances et des divergences. En écoutant l'exposé fascinant d'Ibrahima, j'ai reçu la leçon d'un professeur. Il m'est apparu plusieurs choses. L'une d'elles, c'est que l'expérience européenne de l'esclavage a été une répétition générale pour le colonialisme du 19e siècle.
New Orleans was settled by the French.
Par exemple, quand la Nouvelle-Orléans a été établie par les Français, ils ont immédiatement imposé un plan orthogonal pour les rues, sur le site, immédiatement.
Je
suis donc frappée par cette similarité. Le projet, celui d'imposer sur un autre paysage, sur une autre population, l'idée européenne de l'ordre. Et c'est un ordre qui facilite le contrôle. Bien sûr, nous savons que dans ces espaces, comme je suis sûre qu'il en était de même à Saint-Louis, les rues sont conçues pour une raison. Les gens de la Nouvelle-Orléans, les esclaves, les descendants d'Africains, s'appropriaient l'espace urbain pour leurs propres besoins. Et donc, malgré le projet européen d'hégémonie, il y avait métissage des cultures et il y avait des affirmations de soi. Mais il y a une grande différence, je pense, entre l'histoire de la Nouvelle-Orléans et de Saint-Louis du Sénégal, et une grande différence entre les préoccupations des historiens américains et sénégalais. Pour les historiens américains de cette partie du monde, la Nouvelle-Orléans et sa région, notre préoccupation, c'est l'esclavage et la profonde cicatrice laissée sur notre pays. Et cette cicatrice profonde est toujours là. Et nous aussi, nous cherchons sur quoi elle est fondée. C'est une bataille pour trouver ce lien. Et la juste préoccupation de nos collègues sénégalais, c'est la période coloniale et la cicatrice profonde laissée par la période coloniale. Donc nous partageons une profonde cicatrice que nous tentons de surmonter en tant que nation. Mais les dynamiques, l'histoire de cette blessure sont différentes. Et donc nous tentons de trouver une façon de parler de cette blessure et des similarités avec lesquelles cette blessure a été infligée, tout en reconnaissant dans le même temps les différences de ces cicatrices que nous portons.
Thank you. Saint-Louis du Sénégal, la Nouvelle-Orléans, deux villes miroirs dont nous évoquons l'histoire partagée et la bande-son dans la marche du monde. Nous vous retrouvons juste après les infos sur RFI, partenaire exclusif de ce colloque international ici à Saint-Louis.
Saint-Louis, c'est la ville de la musique, car les plus grands musiciens du Sénégal, ils sont de Saint-Louis. Applaudissez. Alors, nous allons vous interpréter un morceau de jazz.